Vous écoutez France Inter, effectivement, et il est 7h moins le quart. C'est le moment de la revue de presse nationale et internationale avec vous, Catherine Boulet. Bonjour.
Bonjour Noël.
Dans la presse française et étrangère aujourd'hui, la diplomatie sous toutes ses coutures.
Et la diplomatie, dans certains cas, ça s'appelle passer l'éponge, notamment dans les affaires intérieures. En Tunisie, c'est l'oubli, 4 ans après la révolution. On oublie quoi ? La corruption, les détournements de fonds, bref, toutes les pattes graissées des fonctionnaires sous le régime de Ben Ali. C'est à lire dans La Croix aujourd'hui. Le président belge Haïd Essebsi veut interrompre toutes les procédures judiciaires. Projet de réconciliation, dit-il. Texte proposé demain à l'Assemblée, jour de la fête de l'indépendance. Les fonctionnaires, explique le président, ont été persécutés à tort par la justice, mais ils n'avaient pas le choix, dit-il. D'autant que l'amnistie aurait une contrepartie, la restitution des avoirs frauduleux et les devises cachées à l'étranger. L'argent viendrait abonder un fonds permettant de financer des projets de développement et des entreprises. Alors, comment ce projet passe-t-il en Tunisie ? Eh bien, plutôt mal à en croire le quotidien La Presse Tunisie. Adhésion, crainte et scepticisme, titre le journal. Car ce projet ne permet pas l'oubli, mais plutôt de mettre la poussière sous le tapis. C'est en tout cas la position de l'instance Vérité et Dignité. Ce projet est de nature à raviver la colère des Tunisiens. Il est dangereux pour l'unité et la sécurité du pays, juge l'association qui est chargée de faire toute la lumière sur les crimes commis par l'ancien régime. D'autant que ces mesures s'inscrivent dans un projet plus global de lutte contre le terrorisme, à la définition floue, ajoute Le Monde. Tout ça alors que Tunis s'attaque aux mosquées salafistes. Le gouvernement vient d'enfermer 24 non réglementaires et de destituer leurs imams. L'ensemble ne peut qu'encourager l'extrémisme, en conclut un fidèle.
C'est justement une petite phrase prononcée en marge d'un déplacement à Tunis qui met le feu aux poudres chez le voisin.
Oui, en début de semaine, raconte Le Parisien aujourd'hui en France, Nicolas Sarkozy était en Tunisie pour soutenir le pays dans cette lutte contre le terrorisme. Petit cours de géographie de l'ex-président. La Tunisie est frontalière avec l'Algérie et la Libye, ce n'est pas nouveau. Vous n'avez pas choisi votre emplacement. Vous n'avez pas choisi votre emplacement. Autrement dit, dommage pour vous, l'Algérie, la malédiction de la Tunisie. Tollé en Algérie, provocation, titré hier El Watan, qui remet le couvert aujourd'hui avec en une son ministre des Affaires étrangères, qui dit la même chose mais en langage diplomatique. La sortie de Nicolas Sarkozy est malvenue. Le ministre qui s'interroge, la pensée coloniale que l'histoire a complètement disqualifiée, ne serait-elle pas en train de se régénérer à travers des exercices stériles de manipulation de la géographie ? Nicolas Sarkozy a prévu de se rendre en Algérie à l'automne. Pas question de reporter ce voyage, dit l'entourage.
Le dernier voyage en Algérie de François Hollande, cette fois, il en est justement question dans Libération.
Véritable exercice de flagornerie, dénonce Patrick Baudouin, avocat à la Cour et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Baudouin, qui dénonce une certaine dérive de la diplomatie française. François Hollande, rappelle-t-il, à l'occasion de ce déplacement en Algérie, a flatté la grande maîtrise intellectuelle, la capacité de jugement, les conseils particulièrement précieux et la vision du monde d'Abdelaziz Bouteflika. Compliment mal apprécié des Algériens qui connaissent parfaitement bien l'état de santé délabré de leur chef d'État. Et l'avocat déroule. Le même profil bas de François Hollande face à certains tyrans africains. La rencontre qualifiée d'historique avec Fidel Castro. La convention signée avec le Maroc pour épargner la justice à certains de ses criminels placés. Ou encore des relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui par ailleurs finance le terrorisme international. Certes, la diplomatie, c'est aussi défendre ses intérêts, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de ses valeurs, conclut Baudouin, car c'est justement ce que cherchent à faire les terroristes, fragiliser, décrédibiliser les démocraties en les poussant à renier leurs valeurs. La diplomatie, c'est ne pas oublier.
Ce qui nous amène tout droit à l'histoire personnelle de Barack Obama et à cet autre voyage diplomatique de la plus haute envergure.
Barack Obama s'envole aujourd'hui pour le Kenya. Le Kenya, la terre de son père. Premier voyage en tant que président des États-Unis. À Nairobi, l'excitation est à son comble. En témoigne en tout cas la une de Daily Nation qui essaie de deviner l'heure exacte d'atterrissage d'Air Force One en prenant en compte son escale en Allemagne. Obama revisits a complex part of himself, titre aujourd'hui l'International New York Times. Obama revisite sa part complexe. C'est pourtant son 4e séjour dans le pays, rappelle Jeune Afrique, 87, 92 et 2006, il était déjà allé. Et la première fois, raconte le New York Times, il a été accueilli par sa tante et par sa sœur. Il est monté dans leur coccinelle, dont le silencieux est tombé en panne et qu'il a fallu réparer en cours de route. 20 ans, 28 ans après. Il revient, cette fois entouré d'une centaine de personnes, au milieu d'un cortège de voitures. Il prendra place dans une automobile blindée dont le silencieux fonctionnera, ajoute malicieusement le journaliste Peter Baker. Alors, pourquoi cette visite au Kenya maintenant? Diplomatie intérieure et diplomatie extérieure. D'abord parce que les poursuites internationales contre le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, sont levées, explique Libération, mais aussi parce qu'il fallait laisser le temps de faire oublier cette polémique créée de toutes pièces par Donald Trump, le républicain, en 2008. Donald Trump qui faisait croire qu'Obama était né au Kenya et pas à Hawaï, ce qui l'empêchait de se présenter comme candidat à la présidence. Comme quoi la diplomatie, ce n'est pas que de l'oubli, c'est aussi un devoir de mémoire.
Se souvenir pour mieux trouver sa place et tourner la page, c'est ce qu'a fait le Financial Times.
Un sacré cap, les pages saumon britanniques passent aux mains des japonais Nikkei, c'est en une du Wall Street Journal et de nombreux titres en France et à l'étranger. Pas le choix, franchement, c'est soit tu meurs, soit tu t'adaptes, et c'est ce que nous faisons, disait il y a quelques mois Lionel Barber, le rédacteur en chef du Financial Times. Le Financial Times, connu également pour son supplément pour très riches, qui s'appelle, ça c'est pour vous Noël.
Ah, très riche, oui. How to spend it.
Voilà, j'avais promis que je vous ferais travailler un peu votre anglais.
Comment
Bravo, comment le dépenser? Eh bien oui, c'est un vrai casse-tête hein, quand on en a trop. Alors pour vous aider à faire vos choix, entre deux publicités de luxe, vous avez donc des conseils en matière de voyage, de bijoux, de montres, de yachts. Tout ça pour vous dire que la légende veut, c'est Libé qui le raconte, qu'un numéro de How to spend it a été retrouvé chez Kadhafi juste après sa fuite en 2011. En langage diplomatique, ça veut dire qu'il devait en avoir de l'argent. Alors on passe l'éponge ou pas?
On passe l'éponge.